Bonjour Tiffany et bonjour à tous.
Bientôt 5 ans depuis l'accord de Paris, mais pas d'avancée significative. Et en période de relance, les doutes sur les financements verts grandissent. Qui veut payer pour un monde sans carbone ?
Et qui veut payer plus encore, Tiffany, car depuis 8 mois, la finance climatique est coincée entre la crise sanitaire et les plans de relance, et la trajectoire économique globale n'est toujours pas climato-compatible. Même le confinement qui a mis à bas l'économie n'a pas réussi à réduire la tendance. Certes, 7% de dioxyde de carbone en moins cette année, mais un gain de 0,01% seulement sur le réchauffement d'ici 2050, insignifiant, disait le programme des Nations Unies pour l'environnement hier.
Et les plans de relance n'éclaircissent pas plus le paysage.
Eh bien, relance verte ou relance grise, ces plans sont ambigus. Les 12 000 milliards de dollars débloqués sont 3 fois plus importants qu'après la crise de 2008. Mais plusieurs institutions doutent des grands équilibres. Le G20 dépense 141 milliards de dollars pour les énergies propres cette année, mais 234 milliards de dollars pour les énergies fossiles. Et plusieurs pays ont pris des mesures contradictoires, de sorte que ces plans peuvent autant générer des désastres climatiques insupportables que créer une économie saine portée par une énergie propre, concluent les économistes. D'ailleurs, selon un cabinet indépendant, seuls 5 pays sur 23 étudiés ont une relance positive pour le climat. L'Allemagne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et le groupement Union Européenne. Un tiers des 750 milliards d'euros, à peu près comme en France. Mais aux États-Unis, par exemple, c'est 1/100 des 3 000 milliards de la relance qui a été fléché vers l'écologie.
Certains grands États, Xavier, accélèrent pourtant la décarbonation de leurs économies.
Et oui, l'Union européenne en tête qui porte jusqu'à 55% des émissions de 1990. La baisse prévue pour 2030, c'est même 68% d'ici 2060 pour la Chine, le deuxième émetteur mondial. Quant au premier, les États-Unis en passe de réintégrer l'accord de Paris. Eh bien, Joe Biden, qui doit encore annoncer ses objectifs, envisage quand même pour y parvenir 2000 milliards de dollars de financement sur 4 ans. Les banques publiques d'ailleurs suivent. La Banque mondiale qui devrait cesser de financer les énergies fossiles cette année et les banques centrales s'affiche de plus en plus pro-verdissement, même si, là encore, selon Greenpeace, ce sont quand même 7,5 milliards d'euros que la BCE a injectés dans les énergies fossiles depuis la mi-mai, 2 milliards de dollars pour la Banque mondiale.
Alors, est-ce qu'on est dans une phase d'accélération ou non, Xavier ?
Eh bien, c'est ce que demande dans Le Monde l'économiste Christian de Pertuis. Habitué à l'emballement puis à la désespérante course de lenteur, écrit-il de ses grands rendez-vous, il voit pourtant 3 raisons d'être idéaliste. La fin d'abord d'une domination historique des énergies fossiles grâce à l'éolien, le stockage électrique et la gestion intelligente des réseaux qui offrent, écrit-il encore, des alternatives crédibles, clés pour la transition des pays en développement. Ensuite, le retour des États-Unis qui pourrait être ce qu'on appelle un game changer. Et puis, l'effet d'entraînement sur les gros émetteurs à l'étranger, les pays développés et industrialisés, la Russie ou l'Indonésie par exemple, et puis les pays en développement devenus, dit-il, un moteur principal de l'accroissement des émissions. Cependant, le diable reste dans les détails, avertit la chercheuse Sandrine Maljean-Dubois, ne serait-ce que la faiblesse des financements à destination des pays en développement pour les aider à s'adapter, le fameux fonds vert pour le climat qui n'a reçu $1,2 milliard depuis 2015 alors qu'il doit atteindre 100 milliards d'ici 2025.
Et l'on attend désormais beaucoup des industriels ?
Oui, il y a le marché des véhicules électriques qui décolle, et ce, plus balbutiant de l'hydrogène vert, les innovations comme les puits de carbone, mais solution risquée qui arrive en dernier ressort dans une analyse coût-bénéfice, juge l'Agence pour l'environnement et l'énergie. Mais le principal levier, ce sont les marchés du carbone qui instaurent des quotas et un prix des surplus de dioxyde de carbone afin de donner un avantage comparatif aux industries les plus vertes et donc de plafonner les émissions. Celui de l'Union européenne depuis 2005 concerne des dizaines de milliers de sites industriels à fort rejet, sidérurgie, raffinerie, matériaux de construction. Il a permis de réduire de 25% les émissions de dioxyde de carbone tout en conservant la croissance, insistait la présidente de la Commission européenne. Mais l'aviation civile et le transport maritime en sont toujours exemptés et les quotas sont trop souvent contournés, souligne encore Sandrine Maljean-Dubois. Alors Christian de Pertuis veut voir le verre à moitié plein et préconise d'accentuer le rationnement des émissions de CO2 pour atteindre l'objectif de 2030. compte, non en attribuant des quotas individuels, ce qui serait similaire à la gestion des pénuries en temps de guerre, dit-il, mais avec une triple réforme des marchés carbone, inclure les transports et le bâtiment, tripler le prix actuel du carbone pour le faire passer à 100 euros la tonne et revoir le système d'allocation gratuite des quotas, au début outil anti-délocalisation, mais devenu au fil du temps une subvention à l'usage des énergies fossiles, dit-il. Bref, un handicap commercial pour les pays les plus vertueux, aurait dit Lacan, mais c'est une autre histoire à venir, c'est celle de la taxe carbone.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr.